Vincent Cuvelier, bonjour, très heureux de vous retrouver à l'occasion cette fois de la sortie chez Casterman de votre dernière BD, Le Temps des copains. On se situe en 1957, justement, on en parlait. Comment avez-vous déterminé cette période? Est-ce que c'est une date charnière?
Oui, c'est la fin d'une époque et le début d'une autre. On est dans la France qui sort de la Seconde Guerre mondiale, hein, donc il y a déjà 12-13 ans. Donc il y a un truc, les parents de ces gamins-là, ils sont pas toujours à l'aise parce qu'ils ont été prisonniers pendant la guerre, les pères ont un peu perdu l'autorité par la défaite contre l'Allemagne aussi. Hein. Il y a un peu un truc qui se joue à ce niveau-là. Et les jeunes vont se révolter, mais une révolte douce, je veux dire. C'est pas du tout mai 68, on est 10 ans avant. Mais il y a quand même un truc. On peut dire qu'à ce moment-là, la jeunesse divorce un petit peu de ses parents. Et notamment, le vecteur de ça va être la culture américaine qui arrive en masse, de manière plus ou moins voulue. D'ailleurs, je pense que c'est aussi. C'était aussi une stratégie américaine aussi de conquérir l'Europe par la culture. Voilà, le monde.
Quels auraient été les éléments déclencheurs qui vous ont donné envie de créer cette BD?
Alors, moi, j'adore la chanson française. Je suis vraiment un frappadingue de chanson française depuis tout le temps. C'est vraiment mon truc. J'aime bien du rock, de la musique classique, d'autres choses, mais mon truc, le truc sur lequel je reviens toujours, c'est la chanson française. Et pas spécialement celle-là, mais je prends toute la chanson française dans son ensemble. Ça va de Francis Lemarque à Zao Zagazan. Je fais pas forcément l'hierarchie, j'aime tout dans son ensemble, et j'ai cherché un moyen de mêler ma passion avec mon métier. Et c'était compliqué parce que moi je travaille pour les enfants beaucoup. Je fais de la littérature jeunesse où parler des copains de la chanson dans les 27 ans, c'est pas ça, t'as des audaces en plus. Donc j'ai déjà fait un bouquin où il y avait un coiffeur, Gérard Coiffure, un coiffeur qui était le coiffeur de Joe Dassin et de Mike Brandt. J'ai réussi, mais bon, ça n'a pas été.
Faire passer l'info.
Ça n'a pas été mon plus grand succès. C'était un peu compliqué. Et donc, en lisant beaucoup de biographies, parce que je lis énormément de biographies, d'ailleurs, généralement, j'arrête de lire des biographies comme les gens deviennent célèbres. C'est-à-dire, je vais lire la biographie de Philippe Noiret, mais quand Philippe Noiret en a tout deux jours là, ça ne m'intéresse plus. Ouais.
Avant la pointe courte.
Ouais,
c'est ça.
Et donc, j'avais évidemment entendu parler souvent des interviews, des fois Johnny Hallyday en parlait un petit peu, du trou aussi, tiens, il racontait des blagues, François Hardy qui passait dans le coin, tout dans le même quartier, en fait, il y a le square de la Trinité,
Incroyable.
et Johnny Hallyday et François Hardy qui sont nés dans le même public. Il y avait Jacques Dutronc qui était un peu plus loin chez les bourgeois de Provence. Alors, Eddy Gutierrez était plus loin. Il était plus loin, il les avait deviné. Mais quand il y a eu le Gaultreau, ils sont tous arrivés dans ce coin-là. Il y a aussi Don Christ, qui est quasiment mon personnage préféré de la bande dessinée, voilà, que j'aime beaucoup, qui va être pendant 30 ans le meilleur ami de Johnny Hallyday. Il y a Dick Calafate. Un petit bonhomme très drôle, très sympa, qui lui est plutôt le grand copain de Jacques Dutronc, qui va être ensuite un musicien de Jacques Dutronc pendant des années. Et donc je trouvais ça incroyable, quoi, tous ces gens qui se croisent, sans savoir qu'ils allaient devenir célèbres. Mais il y avait déjà un aimant dans ce groupe, même si personne ne savait ce qui allait se passer. Il y avait quand même déjà Jean-Philippe Smet qui. Le futur Johnny Hallyday, qui avait déjà un petit truc en plus. On sentait que il n'était pas comme les autres.
Alors, on a l'impression, quand on lit le BD, c'est comme une comédie musicale, finalement. Et alors, vous dites, la France est un pays de rossignols. J'ai bien aimé ça. Avec la seule, la vraie, l'unique, la chanson française dont vous parliez, justement. Et puis, comment vous avez les pleines pages avec les chanteurs français et outre Elvis, comment avez-vous choisi justement ces artistes pour les prendre comme tels et
Les pleines pages, un petit peu, ouais. Les pleines pages, on cherchait un système de transition entre les chapitres. Vous voulez faire quelque chose de très fluide, de pas très dense. Il y a beaucoup de cases muettes, il y a beaucoup de respiration, il y a beaucoup de cases uniquement esthétiques avec des vues de Paris à tomber, de jazz. Alors moi, pour tous les passages de narration où il y a un narrateur qui parle de la chanson, de Paris, de tout ça, je me suis inspiré de Pierre Tchernia dans Astérix. Pierre Tchernia qui fait la narration au début des Astérix, je me suis servi de cette voix-là. En fait, on dirait pas, mais c'est cette BD est très très inspirée par Astérix. C'est surprenant. Pourquoi pas. C'est vraiment, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de manières de raconter l'histoire. La grosse bagarre de la fin, ça, ben, la bagarre du village Boulard. Enfin, non, c'est vraiment Astérix. Et alors, les petites pages, on les a choisies.
Parce que là-dedans, je les ai choisies. On a Francisco Marc, on a Gloria Nasso avec Bambino, il y a Piaf, des compagnons dont on va parler. C'est vrai que c'est un choix très subjectif, ça.
Oui, c'est moi qui sais, il fait que j'aimais bien. Alors, j'ai aussi choisi des trucs emblématiques de l'époque. Hein. Jacqueline François, par exemple, je ne peux pas dire que je suis un fan de Jacqueline François, que tout le monde a oublié aujourd'hui, mais je trouvais ça très emblématique de l'époque. Et moi, je voulais que ces pleines pages, ce soit encore de la vieille chanson française. Et Jeff, on a choisi un, c'est, parce que Jeff, c'est du jazz manouche. Et donc, il a choisi ses bas de Hugo Reinhardt parce qu'il était déjà mort, mais c'est un truc approchant de Hugo Reinhardt.
Alors, tous vos personnages, c'est assez incroyable, on en parlait tout à l'heure. Ils se croisent sans vraiment se connaître. Et ils ne savent pas qu'ils vont se lancer dans la chanson. Et encore moins qu'ils vont en devenir célèbres. Non, c'est...
Alors, Johnny est programmé. Johnny est programmé par sa tante, Desta. Son père, qui l'a abandonné et qui, à cette époque, devait être complètement clochardisé à Bruxelles. Son père était déjà un comédien. Il avait fait de la mise en scène. Notamment, il avait fait le conservatoire avec Serge Reggiani, qui un jour a parlé à Johnny de son père. Et Johnny est programmé, quand même. C'est-à-dire, sa tante, Hélène Marr, veut en faire une vedette. Elle l'a fait rencontrer Maurice Chevalier, elle lui paye des boules de flamenco.
Oui, c'est assez surprenant.
C'est vrai. En fait, il a traversé l'Europe entière plusieurs fois, Johnny avec sa famille.
Les États-Unis, plutôt.
Non, en fait, tu n'as jamais été aux États-Unis à cette période, mais
c'est bien,
Ouais, parce qu'en fait, Johnny, à cette époque, allez, Jean-Philippe, on va dire. C'est un gamin qui est un peu paumé parce qu'en fait, il n'y a rien qui est net dans sa vie. Sa mère, c'est pas sa mère. Ses soeurs, c'est ses cousines. Son cousin, c'est le mari de sa cousine, c'est pas son cousin. Dit-il américain, mais non. Il ne va pas à l'école, mais il dit aux autres qu'il y va. Il est dans un espèce de limbe et c'est vachement touchant. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est hyper touchant, Jean-Philippe. C'est un gamin, il est beau, il est doué, mais moi, je voulais le montrer aussi comme un gamin normal, c'est-à-dire un peu timide, pas toujours très sûr de lui, avec ses doutes. Et je crois que c'est une dimension qu'on n'a pas vue chez Johnny aussi plus tard, quand il était célèbre. C'est que c'est un gars qui était très drôle et assez simple. Je pense, je ne l'ai pas rencontré, mais je pense que c'est un gars qui avait l'humour de l'époque, c'est-à-dire faire des blagues aux autres, etc. Et s'il y a un deuxième chapitre, s'il y a un second chapitre, on verra plus Jean-Philippe vraiment en train de devenir Johnny. On verra la transition. Quand il choisit son nom, quand il choisit sa tenue de scène, quand il va au Dev Drouot. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un second épisode. Et on sera vraiment sur Jean-Philippe qui se transforme en Johnny. Là, on est encore sur Jean-Philippe.
Comment expliquez-vous que ces chanteurs, donc Johnny, Eddy, Dutronc, aient passé le cap des générations, finalement? Et notamment pour Johnny, quand on voit l'exco qui a été un moment succès, quand on pense aux futurs deux biopics, qu'on va faire sur lui.
C'est normal, c'est normal, je pense qu'il symbolisait quelque chose de la France. Mais justement, aussi ce rêve américain, il a symbolisé aussi James Dean, Robert Mitchum, fait rêver vraiment des générations, Elvis Presley, et puis plus tard, tous les autres. Hein. Et je pense que lui, il incarne cette France qui s'est abandonnée aux États-Unis de manière presque naïve, enfin, de manière presque bébête, à des moments où c'était. Il singeait presque les Américains. Mais en même temps, c'est touchant. Et alors, moi, je pense que Jérôme, il reste. Parce qu'il a incarné, il incarne un modèle populaire français. Les classes populaires reconnaissent en Jérôme un ténor. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Je ne sais pas comment le transfert s'est fait. Mais dans les années 70-80, vous alliez dans les prisons, vous alliez dans les cités HLM, vous alliez dans les usines. Moi, je viens du milieu ouvrier. Johnny, c'était Dieu. Mais bon, je pense que c'est un gars qui a sauvé des gens du fusil. Je pense que c'est un gars qui a permis à des gens de tenir en prison.
Un Johnny Koch?
Non.
Enfin, je veux dire que le. Ce serait l'équivalent.
Ouais, ouais. Moi, il y a un truc comme ça, ouais.
Ouais,
je pense que Johnny Cash avait aussi cette image du white trash, comme il avait, du blanc populaire. Ouais, il y a un petit côté comme ça, ouais.
Et on parlait des biopics. Raphaël Quenard, Mathieu Schoenaert, vous choisissez qui?
Ah oui, c'est vrai. Moi, je trouve que Raphaël Quenard, c'est un choix vachement maintenant. Mais. Sur ça très très intelligent comme choix a priori. Mathieu Schoenaert c'est pas mal, mais physiquement, mais en fait Schoenaert c'est assez malin, hein. C'est assez malin. En tout cas, pour une fois c'est pas Pierre Ninet ou Lambert Wilson. Généralement, quand il y a un CLM, c'est Pierre Ninet ou Lambert Wilson.
Golf Drouot, quelques mots pour expliquer un petit peu.
Drouot, bon, on le voit simplement à la fin du truc parce que.
Mais un endroit mythique quand même, la façon dont il meurt.
C'est ça.
On se croit.
En fait, c'est comme ça qu'on a voulu faire le truc. Le gars, il découvre le paradis. C'est-à-dire, l'oncle Chris, il a 15 ans, il travaille, il est étalagiste dans la galerie Lafayette qui sont à côté. Et entre midi et deux, il cherche des endroits où il y a des jukebox, où il sert du coca. Où il y a la musique américaine, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, à Paris, il y a peut-être 50 personnes qui portent un jean. Donc, c'est vraiment une élite, une aristocratie. Et donc, au hasard, il y a un espèce de salon de thé. Au-dessus du salon de thé, il y a un mini-golf qui ôte un peu bêtement comme ça. Et puis là, il voit un jukebox avec tous les gros chanteurs américains. Qui ne sont pas encore des standards, parce que lui, il connaît deux, trois trucs, parce qu'il est en lien avec des soldats américains, des stocks américains, que vous m'en veux, c'est vrai. Ouais, parce que ça, c'est important. Hein. Et quand il découvre ça, c'est le paradis. Et pendant qu'il découvre le paradis, il y a l'enfer, Square, de la Trinité. Où les gars du square, la bande de Johnny se fait défoncer la tête par la bande du Sacré-Cœur. Et ça, c'est l'hérédique. J'ai souvent entendu Johnny parler de cette anecdote.
Quand vous avez conçu cet album avec Jeff Bourquillet, est-ce que vous vous étiez fait une playlist pour vous mettre dans l'ambiance?
Ouais, effectivement, j'avais une playlist. Après, moi, le rock américain des années 50, c'est pas mon truc préféré. J'aime bien comme ça, mais je vais pas écouter. Par contre, je m'étais acheté quand j'ai terminé l'album, je m'étais acheté l'intégrale Johnny Hallyday, toutes les années 60 au moins, tout le monde, c'est un bon coffret. Et Johnny, je peux écouter des fois avec plaisir un petit peu à petite dose.
Est-ce que c'est en écrivant la cire moderne que vous avez eu envie de passer à cet album-ci, ou ça, j'ai oublié dans votre esprit?
Non, pas vraiment. En fait, moi, j'étais plutôt des livres profonds, mais des fois, selon l'histoire qui nous vient en tête, il y a un média qui est mieux qu'un autre. Donc, ça peut être le roman, ça peut être même la série télé, le film. Au début, pour être très honnête, c'était un projet de série télé. J'ai eu un bouquin qui était adapté au cinéma il y a 7 ou 8 ans. Donc je me suis dit sur l'aventure des Marguerites, ça s'appelait avec Fabrice Cornillac et Elise Paul. Et du coup, je me suis dit, je vais profiter de ce truc. Donc j'ai travaillé pendant des mois sur un projet de série télé en 6 épisodes. Où chaque épisode, c'était un des 6 personnages qui était plus important que les autres. Et puis évidemment, bon, c'est très très compliqué. Donc j'ai fait des demandes de bourse que j'ai pas obtenues. Des rendez-vous avec des producteurs que j'ai pas eu. Donc au bon moment, pour pas être frustré, je me suis dit, bah, je vais d'abord en faire une BD. Et puis donc j'ai contacté Najib Belhaj-Kassel chez Casterman, avec qui j'avais déjà travaillé. Et donc on verra selon l'accueil dans la bande dessinée si je relance mon projet de série télé. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire parce que c'est pas un biopic. Hein. Moi, j'ai pas voulu faire un biopic de Johnny. Hein. C'est un récit d'adolescence qui est plus proche. Vous voyez des films comme Stand By Me ou Diabolo Mante. Pour moi, j'ai vraiment voulu parler d'un.
À toute une époque.
Ouais, de l'invention de l'adolescence. C'est l'époque où on invente l'adolescence comme force économique et sociale. Ça devient. Sociologiquement, l'adolescence devient un truc. Ça devient quelque chose.
On parle de musique, mais en même temps, vous faites des références justement au cinéma, cinéma populaire. Pourquoi choisir de rôle de Frimo sur Michael Byrne et Fureur de vivre avec James Dean? Pourquoi cela, justement, c'est important pour vous dans votre film?
Non, ça c'est Jeff. Rôle de Frimo, je ne l'ai pas vu, c'est à peine ce que c'est. Ça c'est Jeff, je l'ai laissé choisir les affiches, les références, etc. James Dean, ça, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Johnny, parce que ça fait un vêtement marqué. Le gars qui ressemble à Hugh Broder, j'ai fait ça dans des interviews du tronc, et Johnny et Eddie ont parlé. On dit, ah, tu te souviens de Hugh, il avait le crâne rasé. Donc j'ai, en fait, c'est pas un biopic, mais tout est vrai. Tout est vrai. Évidemment, on est bien d'accord. J'ai arrangé sur l'histoire, mais c'est que des anecdotes que j'ai vues ou entendues. Hein.
Une dernière question. Vous êtes plus unique que Spotify?
Alors, j'ai pris YouTube. Moi, je suis vinyle, évidemment. J'ai quand même des centaines de vinyles chez moi. J'ai des CD aussi. J'ai à peu près toutes les formes pour écouter de la musique. Je suis pas du tout par contre, je suis pas du tout à télécharger des trucs à écouter sur l'ordi. Ça, je le fais vraiment pas du tout. J'ai pas de trucs dans les oreilles. Quand je marche dans la rue, j'ai un vieux téléphone portable. Et par contre, c'est très 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 YouTube. Et moi, je me suis fait des dizaines et des dizaines de playlists par époque, par genre musical, etc. Et donc, des fois, je me plonge dans la pop française des années 60, des fois dans le rock anglais des années 70, dans la musique électro de maintenant. Non, j'ai des diètes de playlists pour travailler. Et évidemment, pour faire ce livre-là, je travaillais en écoutant la musique de cet environnement-là. Mais figurez-vous qu'il y a aussi un clin d'œil à la musique classique dans cette BD. Parce qu'on voit un bonhomme souvent sur le bas. Parce qu'on a la Trinité, un vieux bonhomme qui donne à manger aux oiseaux, qui des fois oublie une partition, qui rentre dans l'église, qui sort de l'église, ils sont un peu insultés, ils se croisent, et il est au début et à la fin, et c'est Olivier Messiaen, qui était organiste de l'église de la Trinité à cette époque-là, il a été pendant 37 ans, un truc comme ça. Et donc il les a croisés gamins. Il a croisé tous ces gens-là gamins, et il devait s'en ficher complètement, et vice-versa. Et je trouvais que c'était marrant aussi de faire un autre. C'est pour ça qu'il y a des petits oiseaux au début et à la fin de la BD. C'est en référence à Olivier Messiaen et ses chants d'oiseaux.
Bah, c'est un peu un grand merci. Donc, on rappelle Le Temps des copains, le dessin de Jeff Pocquier, aux éditions Casteron. Merci à vous.
Merci.